La Manamgyal, l'un des premiers occidentaux à avoir pris des vœux monastiques auprès du 16e Karmapa, se souvient des premiers temps à Dakpo Kagyuling et de la préparation de la première retraite de 3 ans. Lama Namgyal, one of the first Westerners to take monastic vows with the 16th Karmapa, recalls the early days at Dakpo Kagyuling and the preparation for the first 3-year retreat.
Alors moi, je suis arrivé en Dordogne vers les années 76, mais je suis tout de suite allé chez Pa Rinpoche au Trancha, parce qu'ils étaient 3 Gelong, et moi j'étais moine ordonné Gelong. Pour qu'il y ait une sangha, il faut être 4. Donc j'ai tout de suite été accueilli là-haut. Mais après, la Magandine, il nous a proposé de faire des retraites de 3 ans, 3 mois, 3 jours. Et donc j'ai été invité à venir habiter à Dakpo début 1980 pour me préparer à la retraite de 3 ans. Et après, on est parti en 84. Hein. Donc il y a 4 années, 80. Début 80, donc je suis arrivé, 81, 82, 83, et début 84, on est parti au Bost faire la première retraite de 3 ans, 3 mois, 3 jours. Donc en fait, on était une vingtaine de candidats, hommes et femmes, moines, enfin j'étais le seul moine, je crois, mais beaucoup de laïcs en fait. Et puis, Lama Rinpoche est venu en 1981 pour nous donner les initiations des retraites de 3 ans. Et parce qu'on pensait rentrer en 1982. Mais on n'a pas eu les permis sur le terrain, là, parce que la comtesse, à l'époque, qui avait le château de Chaban, elle refusait toute construction. Le temple qui devait se faire sur la côte de Jor s'était refusé, parce qu'elle disait que de son château, elle aurait vu le temple. Et puis de faire les centres de retraite, ça demandait beaucoup d'espace. Donc on n'a pas pu rentrer en 1982. Et donc après, on a appris que Arnaud Desjardins vendait sa maison, qu'il avait hérité d'une maison dans l'Hérault, dans le sud, et que Karmapa, le 16e, étant allé au Bost, en 77, je crois. Et donc, on a décidé d'acheter le Bost. Et donc, on n'est pas rentré en 82, parce qu'il n'y avait rien ici, mais on est rentré en 84. On est parti au début 84, on est rentré en mars 84 au Bost. Donc on était une vingtaine, il y avait 14 hommes, 5 femmes et la Magandune, on était 20. Donc toutes ces années, de 80, 81, 82, 83, donc pendant ces 4 ans, on s'est préparé pour la retraite de 3 ans, tous les anciens quoi. Donc on apprenait l'air tibétain, faire mahakala, jouer les instruments. Donc c'était vraiment une année de préparation et comme je l'ai expliqué, Chamarpa était venu nous donner les initiations en 81. Alors je ne sais plus quel mois, mais...
Quelles initiations, t'as souvenir
en fait. Toutes les initiations, Dorje Pamo, tout ça, particulièrement Dorje Pamo. Les initiations pour les retraites de 3 ans. Hein. Et je pense qu'il est venu avant la mort du 16e Karmapa.
Alors pour revenir au départ, au début en fait... comment tu avais entendu parler du lieu? Parce que tu étais déjà ordonné finalement.
Ah oui, alors moi j'ai tout un parcours. C'est un peu difficile à expliquer tout ça. Enfin, moi je suis parisien, français parisien. J'ai fait des études de dessin, je suis dessinateur de métier. Et puis après, je voulais apprendre l'anglais. Donc j'ai fait des études secondaires à Londres. Je suis parti 4 ans à Londres. Entre 23 et 27 ans, et c'est à Londres que j'ai rencontré le bouddhisme. Et donc, j'ai commencé à pratiquer le zen particulièrement. Et puis après, j'ai appris que Kalu Rinpoche venait au Danemark, invité par Ole Nedal. Donc, je suis parti à Copenhague, et je suis resté un an avec Ole Nedal, donc au Danemark et en Suède avec lui, avec ce groupe. Et j'ai pris refuge avec Kalu Rinpoche, j'avais 27 ans. Et puis après, on a appris que Jaime Karmapa faisait une tournée en Occident, donc en Amérique, tout ça, et qu'il arrivait à Samyaling en Écosse, au mois de novembre justement 1974. Et donc quand j'ai vu Jaime Karmapa, j'ai pris les vœux de Getsul et Gelong le même jour. Donc j'étais le premier Gelong ordonné en Occident en fait. Il n'y avait jamais eu d'ordination. Et après, plus ou moins, je suis rentré en France, parce que moi j'habitais toujours entre l'Angleterre, le Danemark, etc. Et donc j'ai vu arriver la Magen Dune en 1975 avec Courcella.
Tu les as vus arriver
À Paris.
À Paris.
Ils sont arrivés, tous les deux. Et en fait, la Magen Dune, on attendait un guérisseur, tout le monde disait. C'était un guérisseur, exorciste, enfin c'était vraiment un très grand maître, quoi. C'est vrai que je me suis aperçu après, il pouvait tout faire. Et donc moi, je suis allé à Paris, puisque j'étais revenu en France.
De Paris, vous êtes venu, tu l'as accompagné?
Alors non, parce que moi, j'ai été envoyé à Marseille pour m'occuper d'un centre de yoga et méditation de Kalo Rinpoche. Et je suis venu plus tard, vers les années, je crois, 76. Et puis, quand je suis arrivé ici, tout de suite, Kalo Rinpoche m'a dit d'habiter au Tronchat pour être le quatrième moine. Mais comme la Magen Dune nous a proposé de faire la retraite de 3 ans, et puis j'ai été aussi demandé pour venir ici pour faire l'accueil, parce qu'il manquait quelqu'un pour l'accueil, pas l'accueil derrière un bureau, mais l'accueil des gens. Et comme j'étais bilingue, c'était très international à l'époque, hein. C'était pas que des Français, il y avait tous les pays d'Europe. Et donc je suis venu en 80 faire l'accueil et puis me préparer pour la retraite qui devait être en 82 et qui s'est fait en 84.
Donc entre 76 et 80, tu étais au Tranchat,
voilà.
Et tu venais à Dakpo.
Alors tout le temps, parce que je traduisais Rinchen, vous avez connu Rinchen?
Oui.
Qui à l'époque, même si elle parlait français, elle ne voulait pas traduire le Dharma tout de suite en français, donc c'est moi je la traduisais.
Des et elle traduisait la Magen Dune.
Voilà, c'est ça, elle parlait tibétain, et moi je la traduisais en français, parce que j'étais bilingue, et puis j'étais aussi le traducteur de Jimmy Rinpoche. Mm-hmm. Qui parlait un peu l'anglais, donc on a fait pas mal de conférences, de tournées, tout ça.
Et à l'époque, la communauté représentait combien de personnes?
On était bien une trentaine. Hein.
Déjà.
Une trentaine. Hein.
Qui vivait sur le centre?
Oui, qui vivait là, ouais. Il y avait des caravanes, il y avait des... dans la forêt. Là, en haut, là, c'est du temple, il y avait des chambres.
Ouais,
chaque fenêtre, il y avait une chambre. Alors c'était vraiment spartiate, hein. Il n'y avait pas de chauffage, mm-hmm. Pas de douche, rien.
Oui.
Donc c'était vraiment, depuis 75, depuis que la Magen Dune était arrivée, jusqu'en 84 je crois même, on n'avait pas de douche, donc il y avait un tuyau dans la forêt, donc l'été on pouvait se doucher dans la forêt comme ça, et puis on avait aussi acheté une grande baignoire en fonte, comme faisaient les paysans avant,
oui.
On faisait chauffer, et puis on baignait comme ça, on remplissait la baignoire, mais pour se rincer, ben, je ne pouvais pas vider, ça prenait des heures. Donc je me suis baigné comme ça dans une sorte de cabane là-bas derrière avec les grands chaudrons là, qu'on remplissait d'eau. Et puis après on est allé à Montignac aux douches municipales. On a fait un peu tout quoi.
Ouais.
Donc c'était assez spartiate. On mangeait beaucoup de spaghettis, pommes de terre. On n'avait pas d'argent, beaucoup d'argent. Hein. Et la Magen Dune... lui-même, il disait, moi, je ne prends pas de douche parce que vous n'avez pas de douche. Parce qu'il y avait la douche dans la maison de la main. Mais il disait, moi, je ne prends pas de douche parce que vous n'avez pas de douche. Moi, je ne prends pas de douche. Mais il se lavait comme ça. Il ne voulait pas être plus que nous. Quoi. Il était vraiment formidable.
Ouais. Ouais. Et comment ça se déroulait les premiers temps sur place? Une journée type, par exemple?
Ah ben, de toute façon, ici, c'était non-stop. Hein. Donc, depuis le matin, 7h, on allait faire les pujas. Donc c'était en général les préliminaires le matin. Hein.
Mm-hmm.
Un jour, je crois que c'était un jour préliminaire, un jour Tara.
Mm-hmm.
Et puis après, à 5h, on faisait Mahakala avec la Magen Dune. Hein.
Donc vous avez été formé par la Magen Dune?
Complètement, oui, tout le temps, la Magen Dune. Et puis pour cela. Et puis le soir, c'était Genresi. Hein. Donc la Magen Dune était tout le temps avec nous. C'était magnifique.
Mm-hmm.
C'est un cadeau de roi. Hein. C'est magnifique. Il était tout le temps, on était très très proche de lui. Ouais. Donc il venait à toutes les pujas au début, puis après il faisait que Mahakala, mais au début il faisait tout, il faisait de cheux aussi avec nous. Et c'était plus international, hein. C'était un peu des gens de tous les pays d'Occident.
Ouais.
Parce que c'était le seul centre en fait, avec ceux de Ole Nidal au Danemark. Et, c'était le seul centre de la lignée. Donc il y avait beaucoup d'étrangers, des Suédois, tous les pays. On parlait beaucoup anglais à l'époque.
Et en termes de maîtres qui sont venus rendre visite dans ces années-là, est-ce qu'il y a eu des types de...
Il y a Kempo Sutrem Gyamso. Kempo Sutrem Gyamso qui est venu pas mal. Hein. Mm-hmm. Et qui avait été désigné plus ou moins par Karmapa pour rester ici, en fait, ici, et puis plus tard au Boss, mais il a refusé. Mm-hmm. Et finalement, il a créé un institut à Katmandou. Il est mort il n'y a pas longtemps, je crois, un an. Mais j'ai beaucoup suivi. Il a fait beaucoup de stages ici, Kempo Sutrem Gyamso. Il a beaucoup enseigné les préliminaires, le Bodhicharyavatara. Il a beaucoup enseigné, quoi. Il venait tous les ans. Le flambeau de la certitude. Et puis le joyeux ornement de la libération. Quoi. Il a beaucoup enseigné, donc c'est vraiment intéressant au niveau des études.
Et Jigme Rinpoche pendant ce temps-là?
Alors Jigme Rinpoche, très humble, comme d'habitude. Très humble. Toujours, comment dire, voilà. Jigme Rinpoche, il était plutôt comme le directeur, on va dire. Le directeur, il dirigeait tout au niveau de, voilà, de la gestion, l'intendance, tout. Parce que la Magdalena Bouchet ne parlait ni anglais, ni français, ni aucune langue occidentale. Jérôme Bouchet parlait un peu l'anglais. Et puis, voilà, on se débrouillait avec son anglais. Donc c'était lui, il était plutôt directeur, le directeur, comme il a toujours été. Et puis, il laissait toujours la Magdalena d'une devant, toujours. D'ailleurs, au début, on ne savait même pas qu'il était Rinpoché, on l'appelait Lama Jime. C'est longtemps après que les Tibétains nous ont dit « mais c'est un grand Rinpoché, c'est vraiment un grand Rinpoché en plus. Il faut l'appeler Rinpoché, mais lui, il est toujours très humble, très... il ne donnait pas d'enseignement, ni d'initiation, ni rien. Alors Lama Gendun, au début, surtout dans les années 75-80, tous les mois, il y avait une initiation, il y avait des enseignements, sans arrêt des initiations. Hein. On a reçu plein d'initiations. Donné. Enfin, jusqu'en 84, il a beaucoup donné.
D'accord.
Et tous les mois, une initiation, presque.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la coiffe noire, la cérémonie de la coiffe noire? Vous y étiez?
Ben, moi, j'en ai reçu plein, des coiffes noires, parce que j'ai vécu... en 76, je suis parti un an en Inde, et puis j'ai vécu à Om Teb, puis avec le Karmapa. Je suis parti 3 mois au Népal aussi, donc la coiffe noire, il a donné une fois ici, je crois.
Oui, c'est cet événement-là, en fait, voilà. Qui nous intéresse.
Et puis, donc, il a donné. Ben, la coiffe noire, vous voulez le sens de la coiffe noire ou quoi? Il y avait ouais, peut-être 100 personnes.
Oui.
Alors, je ne me rappelle plus la date, là, vraiment, j'ai un trou.
Non, mais ça...
C'est quand il est venu, quand il a fait sa tournée, qu'il est passé par Paris et tout ça, ou...
Ben, de toute façon, il a fait 2 tournées. Et...
Ouais.
Alors, je pense que c'était... parce qu'il a donné... D'abord, il y a eu un événement, c'est Corlo Demchok, sur le terre-plein, là-haut.
Ah oui,
ouais. Hein?
Donc ça, j'y étais... c'était 3 jours, hein, parce qu'il y a des gens qui disent une semaine, mais c'est pas une semaine, c'est 3 jours.
Mm-hmm.
Et là, il y avait, je sais pas, presque une trentaine de lamas tibétains. Il y a tous les lamas qui l'accompagnaient, c'est-à-dire une bonne douzaine, plus tous les lamas d'Occident, d'Amérique, de Suède, tout ça, tous les lamas tibétains qui sont venus pour faire les 3 jours de Corlo Demchok, dans une tente, sous une tente, en haut, là, Côte de Jor, mm-hmm. Parce que c'est là que devait se faire le temple,
okay.
qui est maintenant, oui. Au Boss.
Mm-hmm.
Donc ça a été consacré. Donc moi, j'étais tout jeune moine, donc je faisais partie de ça. Et après, ils avaient invité quand même tous les gens de la région, les avocats,
les notables,
voilà. Donc c'était quand même, puis des gens importants aussi de France et d'ailleurs. Donc il y a eu ces 3 jours-là, et je pense que c'était à ce moment-là, c'était peut-être en 77. Ça. Après, le coiffe noire, je ne me rappelle plus quand c'était, j'ai des trous de mémoire. Ça doit être marqué dans les archives.
Ah oui, ça, on retrouvera.
Voilà. On était 300, moi je pense qu'on était 300 pour le Corlo Demchok. Il y en a qui disent 500, mais je pense que... pas autant de monde. Mais...
Parce que la cérémonie de la coiffe noire, il l'a donnée dans l'actuel petit temple, avec devant la maison
devant.
Des lamas, recouvert...
Ouais. Devant la porte des petits temples.
Oui, c'est ça, d'accord.
Ouais. Et puis la coiffe noire, de toute façon, Le sens, c'est que pendant la coiffe noire, il est Chenrezig. Il est Chenrezig. Donc, il récite 108 fois le mantra de Om Mani Padme Hum, très doucement. Et pendant donc il met la coiffe noire, il récite. Et pendant ce moment-là, il est Chenrezig. C'est-à-dire, c'est comme si on était en face de Chenrezig, le Yedam, quoi. Il est indifférencié. Donc, c'est une très grande bénédiction. Moi, j'en ai reçu beaucoup de lui, parce que j'ai fait des tournées en Europe, et puis quand j'étais en Inde, au Népal, partout, au Sikkim, j'en ai reçu pas mal de coiffes noires. Donc là, on reçoit comme si on était en face de Chenrezig, quoi. Il est indissocié à ce moment-là. Donc, c'est magnifique. Hein.
Et à ce moment-là, il y avait de Rinpoche, il y avait des Tibétains.
De toute façon, Lama Gendun, quand il est arrivé ici en 75, le Karmapa lui avait dit qu'il ne reviendrait, qu'il ne plus revenir là-bas, même pour sa crémation qui a été en 80, je crois, qu'il ne revienne plus en Inde, qu'il reste tout le temps là. Donc en fait, Lama Gendun, il est tout le temps resté là.
Jusqu'en 1997.
Jusqu'à sa mort, voilà.
Ouais, 97.
Donc il avait comme ça une consigne de ne plus revenir là-bas, parce qu'il y a eu des événements là-bas, bien sûr. Mais il avait la consigne de rester toujours là. Par contre, Jimmy Rinpoché, lui, pouvait bouger plus.
D'accord.
Et donc après, Kempo Sutrim Gyatso, qui était le complémentaire avec lui. Hein. Mm-hmm. Bah oui, il y a eu d'autres, bien sûr. Oui. Mm-hmm. Tengger Rinpoché, voilà.
Et je reviens sur le fait d'avoir été le premier moine ordonné en Europe. Et comment vous viviez cela?
D'accord.
Par rapport à votre famille déjà?
Non, pas de problème avec la famille.
D'accord.
Parce que ma mère était prof de yoga, tout ça, et puis c'est elle qui m'a passé les bouquins d'Arnaud Desjardins, donc le message tibétain. Ça, moi j'ai baigné là-dedans, plus ou moins.
D'accord.
Et après, c'est moi qui l'ai amené vers le bouddhisme, vers le Karmapa, d'autres maîtres. Déjà, mon poché aussi, parce qu'on était très liés avec l'énigme Mapa aussi à l'époque. Mm-hmm. Donc moi, j'ai pas eu de problème. Donc j'ai pris refuge à 27 et je suis devenu moine à 29 ans. Oui. Et je vais fêter les 50 ans le 29 novembre, là, dans 2 semaines ou 3. 50 ans de Guélong, de moine. Okay. Donc c'est un événement aussi. Donc pour moi, ça ne pose pas de problème, ça m'a posé de problème.
Je pensais au regard des locaux, des gens des environs.
Oui, par rapport au... Non, mais moi, j'étais quand même discret. Hein. On était là, on ne bougeait pas, on ne sortait pas. Hein. Je n'allais pas faire les courses ni rien. C'était pas mon job. Moi, j'accueillais les gens.
D'accord.
J'étais à l'accueil, dehors, pas derrière le bureau. Et puis Michel Berbune était derrière le bureau. Elle était très bien à l'époque encore.
Et elle était déjà nonne aussi, Michel?
Non, c'est après les retraites.
Après les retraites.
Il y avait Lucie, qu'elle connaissait.
Oui.
Qui était là. C'est plutôt Lucie qu'on doit interviewer. Que tu es là entre 80 et 84, je pense. Mmh,
d'accord.
Donc, d'être moine, c'est une vocation, donc ça ne posait pas de problème, non. Non, moi, c'était... ça faisait partie de moi.
Mmh. Non. Et donc, les autres moines se sont révélés après les retraites, c'est ça?
Pendant la retraite, la Maganine, il a commencé à... parler de ça, tout ça. Donc moi j'étais le seul, donc après il y a eu toute ma promotion, puis d'autres promotions, puis après à la sortie de notre promotion et à l'entrée de l'autre, Samuel Contre le Brochet, l'ancien, a donné les vœux aussi. Magani nous a donné les vœux en retraite, et puis il a redemandé à Samuel Contre le Brochet de redonner à tout le monde. Enfin bon, donc il y avait une bonne équipe. Mais chez nous, tout le monde prenait les vœux, en fait, notre équipe. On était 14 hommes, 5 femmes. Donc, peut-être il y a eu 12 hommes qui ont pris les vœux. Mm-hmm. Bah, après, tout le monde les a rendus, c'est sûr, mais c'est trop dur. Mais avec la Magaline, on ne pouvait pas échapper à quoi que ce soit. C'était l'exemple même de la pureté, la sainteté, quoi, finalement. Donc, on prenait tous les vœux. Mm-hmm. Après, quand il est parti, beaucoup ont rendu les vœux, bien sûr. Mm-hmm. C'est lui qui a commencé la sangha monastique, on peut dire. Bon, le Karmapa, il a commencé pour l'Europe, mais bon, ici, c'est vraiment la Magaline qui a commencé en retraite de 3 ans, mais plutôt au Bost. Hein. Pendant les retraites, il a commencé à donner les vœux, et puis après, il a demandé à Jamon Kompo Lamché de venir, de redonner les mêmes vœux pour créer un lien plus fort encore.
D'accord.
C'est pour ça que le 16e Karmapa, il avait donné son bol, il avait un bol spécial d'ordination. On voit souvent le Bouddha avec un bol noir.
Oui.
Je ne sais pas quoi c'est, nacre, je ne sais pas quoi. Et il avait laissé son bol, je ne sais plus l'année, la dernière fois qu'il était venu, à la Magen Dune.
D'accord.
Oui, donc c'est un bol qui date depuis des siècles. C'est une relique, hein.
Oui, oui.
Et donné à la Magen Dune. Alors évidemment, il y a toute une histoire avec ce bol, parce que Karmapa, il était accompagné de plusieurs lamas, responsable de ci, responsable de ça, et il y en avait un qui était responsable du bol, un jeune. Et lui, là, il ne savait pas que Karmapa, il avait donné le bol à la Magen Dune. Donc il a vu le bol, je ne sais pas où, dans la chambre de la Magen Dune, il a pris le bol, il l'a emmené quand ils sont partis, retournés en Inde, il n'y a plus de bol. Donc il était responsable, puis il ne savait pas que Karmapa avait laissé vraiment. Donc, il a repris le bol, il a dit c'est à moi, c'est à nous. Et puis je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé à l'aéroport, je crois que c'est à Genève, ou je ne sais plus quel. Ça doit être Genève, quand ils ont repris l'avion, je pense que c'est Genève. Mais le bol, il a été perdu, et puis il n'est pas parti. Et après, ils ont retrouvé l'adresse de Dapogéling, et il est revenu. Il est revenu ici. Ouais, c'est une histoire incroyable.
Ah ouais, super,
on ne sait pas comment, mais le bol, il a disparu, il n'est pas rentré dans l'avion. Et après, on a perdu un bol, mais il y a l'adresse de Dagpo, il est revenu là. Ça, c'est la bénédiction du karma.
Ah, il est toujours aussi.
Ah, ben, il est au Bost, ouais.
Il est au Bost.
Ouais.
Incroyable.
Ouais. Ouais, c'est marrant l'histoire du bol.
C'est ça.
Quand le karma pas décide un truc, les douaniers ne peuvent rien faire, personne ne peut rien faire. Hein. Ça, c'est une histoire vraiment extraordinaire.
Et du coup, alors on va passer à la période de 1980-84. Donc l'entrée elle-même a eu lieu le 17 mars 1984.
Mmh.
Mais avant cela, est-ce que vous avez des infos en lien avec comment ça s'est passé, l'acquisition de la propriété du BOS, Biolay, en Auvergne?
Je crois que c'est Jimmy Boucher qui s'occupait de tout ça. Et...
D'accord.
Et donc, en fait, oui, c'est important. Je ne sais plus combien c'était, mais il y avait un Kenpo Nyingmapa, Kenpo Nishu.
Ah oui, Kenpo Nishu.
Qui était aussi un copain à la Magen Dune, au Bhoutan. Ils avaient traversé la frontière ensemble, je pense, après l'invasion. Et donc, Kenpo Nishu avait reçu une grosse somme d'argent. Et donc, il n'en avait pas besoin. Il a donné à la Magen Dune l'argent. Et donc, c'est avec cet argent. Et nous, on a donné une partie d'argent qu'on avait aussi de notre retraite, première retraite, et c'est comme ça qu'on a acheté le Bost.
D'accord.
Donc la moitié, c'était la Magen Dune, la moitié, ça a été nous, les retraitants.
D'accord.
C'est Jimmy Boucher qui s'occupait de tout ça, de toute façon.
Et pour trouver le lieu lui-même, la recherche du lieu, c'est du coup Arnaud Desjardins qui a...
C'est-à-dire que...
Non.
Comme on devait faire la retraite en 82, qu'il fallait absolument trouver un endroit, donc même Jimmy Boucher, il cherchait un château quelque part, des demeures. Et sur quoi ça ne marchait pas, ça ne plaisait pas. Et puis tout d'un coup, un jour, on a trouvé à Sarlat, ils vendaient un château à côté. Donc on s'est dit, oui, il y avait des dépendances. On s'est dit, peut-être que le château, ça sera l'institut. Et puis les dépendances, on va faire... on avait déjà fait quelques plans. On fera les centres de retraite dans les dépendances. Mais Sarlat, quand ils ont appris que c'était nous qui allions acquérir le château, ils ont mis le veto. Ils ont acheté le château, la mairie. Ce qui leur a coûté énormément d'argent parce qu'ils ne savaient pas quoi faire. Il fallait qu'ils payent les frais, mais pour nous bloquer, quoi. Donc mais on aurait pu être à Sarlat s'ils avaient voulu. Mais à l'époque, on n'avait pas une bonne presse. On était une secte.
Il y avait des peurs, oui.
Voilà, la secte, le bouddhisme. En fait, tout s'est arrangé avec le prix Nobel du Dalai Lama, puis Mathieu Ricard. Je crois que c'était en 1988 ou plus. Hein. Parce que là, le bouddhisme est devenu un peu plus populaire avec Dalai Lama et Mathieu Ricard. Je ne sais plus à quelle année il a eu le prix Nobel, mais c'est là où ça tout a changé. Et puis quand moi j'étais là en 91 quand Dalai Lama est venu là. Là il y avait le maire de Bordeaux, il y avait tous les maires, il y avait tout le monde. Hein.
Ouais.
Chaban Delmas, tout ça. Donc là on était reconnu comme une religion, comme une tradition. Mais avant, c'était plutôt un peu des marginaux, on va dire. Marginaux. Donc c'est pour ça que le maire de Sarlat, tous les gens de Sarlat, ils ont dit, les bouddhistes, non pas possible. Et donc, heureusement, parce que après, on a appris que Arnaud Jardin vendait sa maison, mais comme le 6e grand-père était allé là-bas donner la coiffe noire, il avait même fait des prophéties comme quoi il y aurait quelque chose de très important, mais ça s'est fait très vite, très facilement.
Et du coup, on va parler de la première retraite de 3 ans, 3 mois, 3 jours. La préparation, ça consistait...
La préparation, c'était là, parce que c'est que des gens qui étaient là. Mm-hmm. Ouais, des gens qui étaient associés ici, à Dapo. Et donc, ça a duré les 4 ans, là, de 80, depuis 80. Quand je suis arrivé, justement, mm-hmm. je suis descendu des tronchats pour me préparer. Et on a eu 4 ans, 81, 82, 83. On a eu 4 ans. Mm-hmm. On est parti donc au début 84 mm-hmm. pour aménager le boss, la grande maison du boss pour les hommes et les femmes. Donc on a séparé la maison et le temple après. Donc comme je vous disais, il y avait 14 hommes, 5 femmes. Mm-hmm. Et la Maguenine qui était donc le 20e.
D'accord. Et donc vous appreniez le tibétain,
alors ici, ouais,
les cours, enfin les textes traditionnels.
Là, il fallait savoir lire très bien le tibétain. Donc on a vu le Kempo Sutra bien sûr, de toute façon, on connaissait déjà pas mal la philosophie. Et puis on avait appris à lire et écrire tibétain. Bon, on n'était pas traducteur, parce que c'est un autre processus, mais il y avait Rinchen qui était traductrice.
D'accord.
Celle qui traduisait tout, elle était au top. C'était vraiment superbe.
Et Gyanyun Rinpoche faisait des entretiens dans la
ville. Tout le temps, oui, tout le temps.
Jour et nuit ou...
Non, pas nuit, mais jour, tout le temps, il recevait des gens parce que c'était porte ouverte avec lui.
Ouais.
Donc il fallait qu'il ait un traducteur tibétain. Donc il a eu quelques tibétains quand même, il y a eu deux tibétains ou sikhimais, enfin des gens qui de là-bas. Et puis il a eu surtout Rinchen les dernières années. Quoi. Mmh. Et puis après Yeshe quand elle est partie en retraite avec nous. Mmh. Donc il recevait tout le temps, il bénissait tout le temps, il donnait refuge. Mmh. C'était magnifique, quoi. C'était superbe.
Ah ouais,
c'était avec beaucoup de chance. Beaucoup, beaucoup de chance. Il sortait des grottes du Tibet, il a passé sa vie dans les grottes au Tibet.
Ben hein. Oui.
Mahamudra. Hein. Et là, le Karmapa, il avait fait une prophétie que vous connaissez certainement. Il avait dit à Magandun, il sera Milarepa dans deux vies. Il sera comme Milarepa dans deux vies. C'est-à-dire que Milarepa, il a atteint le Dharmakaya, l'état de Bouddha ultime. Hein. Et donc, Milarepa ne revient pas. Il y a des émanations, j'en ai rencontré une émanation très haut. Mais Milarepa, il est là-haut. Donc, quand on fait Milarepa, on fait la bénédiction du Dharmakaya. Quoi. Donc, il avait dit. Lama Gyanyun, dans deux vies, il sera comme il arrête pas. C'est-à-dire Dharmakaya. Et donc, entre les deux, il y a Gyanyun Rinchen, qui n'est pas un yogi du tout, qui est dans le monde, qui est laïque, qui parle parfaitement donc, français, anglais, allemand. Pas un mot tibétain. Donc, c'est vraiment très, très drôle. Il a 25 ans. Donc, Lama Gyanyun est revenu pour continuer le travail. Jimen Poché nous a bien fait comprendre que ce sera lui le successeur, de toute façon.
Oui.
Il s'occupera de tous les centres européens, en Allemagne, en Suisse, partout. Donc c'est lui qui le successeur, hein, c'est clair.
Mm-hmm. D'accord.
Mais il n'est pas moine, il est pas ordonné.
Et comment il vous guidait, Lama Gyanyun Rinpoché, pour la préparation retraite? Il vous donnait des enseignements?
Il donnait sans arrêt des enseignements, hein, de toute façon, tout le temps. Hein.
Ouais.
C'était vraiment, on avait énormément de chance qu'il enseignait tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'avais l'impression que tous les week-ends, il y avait quelque chose, beaucoup d'initiations. Quand il y a beaucoup de gens d'étrangers, il y avait des Américains, tout ça. Des gens qui ont créé des centres partout après dans le monde. Hein. Mmh. C'était pas que l'Europe finalement, il y a beaucoup aussi d'Américains. Mmh. Donc ils donnaient beaucoup parce qu'après les gens sont partis dans leur pays.
D'accord.
Et ils avaient reçu Shinrezi, Sangyemala, Tara, tout ça. Mmh. Donc ils donnaient énormément de choses, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mmh. Et puis comme il donnait beaucoup d'enseignements sur l'Ojong, en fait, l'Ojong, l'alchimie de la souffrance, enfin, je ne sais pas si vous connaissez tous ces noms.
Si.
Ben, donc c'était tout le temps l'Ojong, en fait, les Wachen, l'impermanence, enfin c'était l'Akpo Targen, joyeux ornement de la libération, l'alchimie de la souffrance, l'Ojong, les préliminaires, enfin, il enseignait tout le temps. On a reçu plein. Mm-hmm. Après, ça a dû continuer aussi quand on est en retraite, parce que c'est Yeshe qui a repris la place de Rinchen, et qui sont rentrés en retraite 3 ans après nous.
D'accord. Et Shamari Boche est venu pendant cette période-là ?
En tout cas, il est venu 2 fois au Bost nous voir, donc il est venu là.
D'accord.
Il est venu.
Il a donné une initiation en lien avec la retraite, c'est ça ?
Alors, oui, comme je vous ai dit, en 82, comme on devait rentrer en 82, en 81, il est venu, il a donné toutes les initiations pour la retraite de 3 ans.
D'accord.
Mais on a dit plus ou moins qu'on avait perdu 2 ans. Mais nous, on était ravis que ça soit. On n'était pas prêts, quoi.
Eh oui.
Parce qu'au niveau tibétain, au niveau des instruments et tout, 2 ans de plus, ça faisait. On était complètement nouveau, quoi. Et même en retraite, il fallait qu'on traduise tout, il n'y avait rien.
Eh oui.
On était les pionniers, donc on n'était pas mécontents que ça dure encore un peu 2 ans de plus.
Ouais. Et ça me fait penser aux textes, les textes, comment. Vous reproduisiez les textes.
Il y a une partie des retraitants qui sont partis en Inde, à Rumtek, pour acheter les textes tibétains, le pecha, ce qu'on appelle en papier de riz.
Oui.
Et puis après, c'est Rinchen, puisqu'elle était dans la première retraite, la première génération, qui traduisait tout, plus ou moins tout. Mm-hmm. Mais tout ce qu'elle ne pouvait pas traduire, on le faisait en petits groupes. Mais c'est surtout Rinchen qui traduisait pour nous.
D'accord.
Après la deuxième retraite, les femmes n'ont pas pu faire la deuxième retraite, elles n'étaient pas assez, que les garçons. Donc on a pris la maison familiale derrière le Bost, et on a laissé la place à la deuxième génération, Punso, Yeshe, Chedroup et compagnie. Mm-hmm. La dame est avec nous. Et on traduisait tout, on avait le temps, on a eu 7 ans.
Une fois entré en retraite, comment ça s'est passé entre vous et...
Ah, on se connaissait beaucoup, c'est ça. Parce qu'on a vécu beaucoup ensemble ici. Il n'y avait rien ici. Donc on vivait comme des sauvages un peu. Donc on a vécu au moins, le minimum, c'était au moins pendant les 4 ans. Là. Il y avait d'autres qui venaient d'avant. Sonam et Lekshi qui sont de longue durée. Ils y étaient presque depuis le début. Hein. Moi aussi, mais j'étais là-haut, Drancha. Mais on se connaissait tous. Donc ça faisait beaucoup. Au niveau du groupe, quoi, d'avoir travaillé ici, construit tout ça, démarré le truc. Donc on était un groupe très 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 uni en fait, mais on avait une dévotion, vraiment tout ce qu'ils disaient on le faisait, tout. C'était magnifique, parce qu'on avait vécu avec lui au jour le jour, on avait vu comment il était, quoi. Enfin, on lui a jamais trouvé un seul défaut, hein. Il était magnifique. Donc là, c'est la dévotion qui faisait que ça fonctionnait. Personne n'est sorti pendant la première retraite, même la deuxième. Notre deuxième retraite, il y avait beaucoup de dévotion. Puis tout le monde est devenu moine, presque. Mm-hmm. Sauf ceux qui ne pouvaient vraiment pas. Il n'y en avait que deux. Et tout le monde devenait moine. Puis après, évidemment, les tendances faisaient que... Voilà, ils ont rendu les vœux, ils se sont mis en couple, certainement. Mais tout le monde prenait les vœux avec lui. C'était impossible de... C'est très dur de pas... Voilà, c'était un exemple vivant d'un saint homme, quoi. On ne pouvait pas faire autrement que... Voilà, c'était pas possible. Enfin, moi, le premier, mais tout le monde a suivi, quoi.
Et il y a eu des visites de maîtres pendant la retraite, là ?
Ah oui, alors, Charles Marpa est venu 2 fois. Donc, en 85 et en 87. Et puis, il y a aussi Touré Boucher qui est venu. Mmh. Une fois, peut-être en 87, oui. Et puis c'est tout, je crois. Là, ma deux ans, elle peut venir une fois parce qu'il avait un disciple. Donc il est venu chez les garçons parce qu'il avait un disciple. Donc ils étaient assez liés. Ma deux ans, il voulait toujours voir la Maguenu pour avoir des conseils, tout ça. Voilà. Donc comme il avait un disciple proche, il a pu rentrer une fois. Mmh. Mais très peu, par Rinpoché est venu, oui, par Rinpoché aussi. Mmh. Mais très peu, Cal Rinpoché, bien sûr, mais pas plus. Hein.
Mmh,
aussi, on a été visité plusieurs fois. Ouais. Mmh. 2 fois Shah Marpa, 1 fois Cal Rinpoché. Et bon, là-bas, dans Zang, exceptionnellement, c'est tout Rinpoché, toi.
De toute cette période, finalement, par rapport à la manière dont fonctionne DACPO aujourd'hui, par rapport à, avec le recul de ces 50 ans, comment vous, qu'est-ce que vous pensez?
C'est un autre monde. Hein. D'abord, nous, rien n'était informatisé à l'époque. C'était Lucie, c'est Lucie hein, qui s'appelle oui. Lucie, qui est née exactement à une semaine près. On a le même âge à Lucie et moi. Donc on est assez frères et sœurs. Ça se passait tout à la main, quoi. Tout. Mm. Mais comme il n'y avait pas de logement, de toute façon, donc les gens, ils habitaient au-dessus de la maison de Lama, il y avait un grenier. Mm-hmm. Je ne sais pas où est-ce qu'ils habitaient autre part, il n'y avait pas. Il y avait un grenier au-dessus de la maison de Lama, à gauche et puis à droite, et puis c'est tout. Puis les gens, ils squattaient partout. Non, il n'y avait pas de... Il n'y avait rien, quoi, de formel, quoi. Non, c'était comme ça, c'était vraiment l'aventure. C'est vraiment l'aventure. C'est pour ça que c'était un peu marginaux, je pense. C'est après que ça s'est organisé, l'association, tout ça, parce qu'il fallait vraiment organiser tout. Ça ne pouvait pas continuer comme ça. Et puis après, ils ont fait l'hôtellerie, le réfectoire. Il n'y avait pas tout ça. On mangeait au garage. À l'époque, il y avait un garage derrière chez Baba. L'atelier, on mangeait là-bas. C'était réduit, on faisait la cuisine comme ça. Non, mais c'était vraiment... On était tout jeunes. C'était entre 29 et 39, 10 ans comme ça. C'était un des plus âgés, mais il y avait beaucoup de jeunes. Hein. Mm-hmm. Ouais. C'était vraiment une belle aventure, vraiment de liberté aussi, parce qu'il n'y avait pas de contraintes. On vivait au jour le jour, il n'y avait aucune contrainte. Alors on n'avait pas beaucoup d'argent, c'est clair. Les repas, c'était un peu chiche. C'était souvent des pâtes et des pommes de terre, hein, c'est tout. Hein. Je ne sais pas s'il y avait vraiment du beurre même dans les épinards, mais c'était vraiment. Ouais, c'était rustique, c'était marginal. Et puis la présence de la Magaine Dune, avec Jimmy Rinpoché bien sûr, mais en retrait, on était bien heureux, je pense. D'ailleurs, il disait, la Magaine Dune, qu'on avait vécu notre âge d'or ici, en fait. Après voilà, c'est vraiment l'âge d'or, quoi. Parce qu'après nous, quand on est allé au Bost, alors on avait des belles chambres. Pour nous, c'était 5 étoiles, le Bost, parce que c'était des belles chambres. C'était un ancien centre spirituel, vraiment. Donc on avait chacun une chambre, alors c'était extraordinaire. Vraiment une chambre, pas un grenier. On n'avait pas de chauffage, parce que ça fait partie de la retraite. Il y avait une salle de bain, on pouvait laver nos affaires. On n'avait pas de machine à laver à l'époque. Voilà, on avait 3 repas. Donc ici, des fois, le soir, pas grand-chose. Donc, quand on est arrivé au Bost, c'était le 5 étoiles hein, pour nous sortir de vraiment l'aventure. Alors, on est arrivé là-bas, une maison en pierre, avec des douches, une salle de bain. Salle de bain, on n'aurait jamais pensé à ça. Comme il n'y a pas de machine à laver, on lavait nos affaires dans la salle de bain. Et puis voilà, tout bien organisé, bien sûr, c'était bien.
Donc il y avait des voitures ici, il y avait une voiture.
Il y a eu certainement une voiture. Toujours des gens qui ont des voitures, de toute façon.
Ouais, des gens d'extérieur, quoi.
Oui, il y a toujours eu une voiture pour faire les courses ici. Il y avait une voiture, une sorte de une petite camionnette pour acheter à Montignac, on faisait les courses à Montignac. Ouais. Et donc, ouais, il y avait une sorte de van, un petit van. Ouais. L'important, c'était le bonheur. On était vraiment dans la joie. Vraiment. On voit rien. Quand on est heureux, la Magaine, il nous donnait tellement de joie qu'on ne voit pas les circonstances difficiles. Je vous dis, quand on est arrivé au Bost, c'était le palais pour nous. Hein. Bien qu'il n'y avait pas de chauffage, parce que pour tout le monde, il ne faut pas qu'il y ait de chauffage. Et donc, il n'y avait pas de chauffage, mais il y avait l'eau chaude, l'eau froide, une maison en pierre, alors qu'on est sous les toits, là, il faisait froid, avec beaucoup de rats, de souris, hein, quand même. Et c'était quand même vraiment difficile au début, hein, avant qu'ils construisent... Même l'hôtellerie et le réfectoire, c'était pas pour nous, c'était pour les visiteurs. Les gens vivaient dans les cabanes, dans les mobil-homes, enfin... Non, c'était toujours été très rudimentaire. Hein. C'est maintenant que ça devient bien, avec la construction de ce... Voilà, de tout cet ensemble de chambres, là. Mais à l'époque, il n'y avait rien. Ça commence maintenant, parce qu'il y a une structure pour les résidents.
Et alors, j'étais étonnée de lire dans les tendrelles de 80-81, de voir qu'il y avait eu des récoltes en fait, de blé, des productions de jus de pomme. tout ça en bio pour nourrir la communauté. Vous vous souvenez de ça?
Alors non, on a fait des tentatives de jardin. Donc c'était quand on va à Laugeral, le champ en face là, qui nous appartient en contrebas, là, en continuant mais sur la gauche. On a fait des tentatives, mais c'était très difficile. D'abord, il fallait un jardinier. Et puis, comme il y avait beaucoup de gens qui passaient les week-ends, s'il y avait une récolte pour 20 ou 30 personnes, pour nous, dès qu'il y avait un stage de 100 personnes, tout partait.
Ah, ouais.
Nous, on ne voyait rien. Mm-hmm. C'était très décevant pour mm-hmm. les gens qui étaient jardiniers, enfin, et pour nous. Parce que ça aurait été bien si on avait une petite communauté que nous. On aurait pu vivre peut-être un peu en autarcie comme ça, mais comme il y avait des gens qui passaient tout le temps, et beaucoup d'étrangers, tout ça, et on était obligé de passer par les supermarchés, parce que et si le jardinier il a apporté un paquet de tomates, ben ça partait en une journée, et nous on n'en mangeait peut-être pas, on ne voyait pas la différence, donc ça s'est arrêté assez vite, d'abord parce qu'il n'y avait pas de personnel, de jardinier, tout ça, tout le temps, et puis ça ne pouvait pas fonctionner dans un centre où beaucoup de gens passent. Il faut vraiment avoir une grande superficie, plusieurs personnes, parce que ça demande beaucoup de travail, le jardin. Et ils vont fonctionner pour ça, mais là, c'est pas possible. C'est bien pour une petite communauté, mais pas pour un centre où il y a beaucoup de gens qui passent. Donc on a arrêté assez vite, en fait. C'est dommage, on aurait bien voulu continuer. Mais... Et des animaux, c'était hors question, donc pas de vaches, pas de chiens, pas de cochons. Pas de... Donc, non, mais c'est pour ça, ça ne nous a pas gênés. On a acheté à côté. Après, les productions. Alors, c'est vrai, pour gagner un peu d'argent, des fois, on allait faire les vendanges. Donc, ça m'est arrivé de faire les vendanges pour gagner quelques euros. Mm-hmm. On allait faire les vendanges. On était connus un peu. J'ai ramassé des fraises aussi, les fraises. Mm-hmm. Il y a eu les noix. Donc, on allait travailler un petit peu. Ça nous faisait un petit peu d'argent de poche. On était un peu connus dans le coin. Là. Donc, moi, j'ai fait les vendanges, les fraises, les noix, j'ai pas fait, mais il y en a qui ont fait ça. Même il y en a qui sont partis jusqu'en Suisse pour faire ça, gagner un peu d'argent dans ce genre de travail. Hein. Mais on s'est bien débrouillé, ça a bien passé. Donc voilà, après, on a commencé la première retraite, donc c'était qu'une retraite. 84-87, et puis la Maguenune, pendant la première retraite, nous a dit, mais j'ai encore quelque chose à vous donner, j'ai pas fini de vous donner tout ce que j'ai à vous donner, pour faire une deuxième retraite. Comme ça s'est passé. Et donc on a dit, ben oui, pourquoi pas, nous on fait tout, hein. On est prêt à tout. Donc on a laissé la place pour les prochains retraitants, de première retraite, et nous on a construit le centre de retraite derrière, dans la maison familiale dans nos jardins, on a construit... 14 chambres. On a fait une deuxième retraite. Et les femmes, elles n'étaient pas assez, elles ne voulaient pas faire deuxième retraite. Donc ça a été que les garçons.
Vous étiez combien sur la deuxième retraite?
Alors, la deuxième retraite, on était 4, 4, 8, 9, 10, 11. 11, 12 même, 12. Il y en a deux qui ont dû partir, ouais. Presque tout le monde. Et puis après oui, il y a eu des femmes qui ont pu faire aussi après nous. Une autre époque, c'était pas possible. Parce qu'après, ils ont construit à l'OSDA, les hommes et les femmes ont pu se séparer. Mais au début, la première retraite, les femmes, elles étaient une partie. Nous, on était à K1, les femmes à K2, et le temple de la Maguindune était là. Donc, on partageait la maison, en fait.
D'accord. Et le stupa a été construit à quel moment alors?
Alors, il a été construit la dernière année de la première retraite, alors, en 86. Hein. Mm-hmm. Et puis, M. Marpin est venu le consacrer en 86. C'est un de nos cuisiniers, Nicolas, que vous connaissez, qui a construit l'institut, là. Nicolas...
Henri.
Ouais. C'est lui, il était notre cuisinier.
C'est rigolo.
Et c'est lui qui a fait le stupa. Et donc, M. Marpin est venu, je crois que c'était en 80. Alors lui, pour le stupa, il faut voir Nicolas.
Oui, d'accord.
Et il vous donnera toutes les dates. Je pense que M. Marpin est venu en 86 pour consacrer... Le stupa, oui. Là, je vois pas d'autres souvenirs.
C'est formidable déjà.
Ça vous va?
Ouais, c'est parfait.
Oui, c'est
ouais, ça va.
Vraiment, merci infiniment.